Zing bang, on peut l'employer dans cette phrase-là. Comment tu te sens aujourd'hui? Zing bang.
Je pense que de tous les exemples que tu aurais pu utiliser, Zing Bang, c'était le pire.
Quand je prends un bon verre de vin ou un café, j'aime ça quand c'est corsé. C'est excellent.
Tout comme cette émission.
L'écorcé. L'écorcé.
OK. Je m'excuse.
Pourquoi on rit tout le temps au début?
Parce que je pense que je sais que tu sais que je vais faire une blague. Puis j'espère que tu vas être déçu de... Pourquoi je dis
j'espère que je vais être déçu?
À vos masques, prêts, partez. Bon lundi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en compagnie de Jay et...
Marco!
Oh yeah! Aujourd'hui, on a une émission assez singulière. Vous allez comprendre pourquoi. On va aborder le sujet du port du masque obligatoire. On n'est pas pour, on n'est pas contre, on fait juste le faire, mais on veut quand même en parler.
Ben oui.
Mais également vous parler pourquoi est-ce qu'on porte des vêtements sombres lors d'un jour de funérailles, lors de funérailles.
Oh.
Puis Marco va nous poser quelques questions existentielles auxquelles on a la prétention de connaître la réponse parce que, hein,
ben, qu'il en faut de la prétention.
Mais non, exactement, c'est ça. Mais tout d'abord, Marco.
Oui.
Cette semaine, j'ai tombé sur une personne que je ne pensais pas que ce genre de personne-là existait réellement.
Hein?
Souvent, on va voir des personnes qui parlent de complot, puis tu vas dire, savez-vous quoi? C'est bien normal parce que, maudit, ils sont sur Facebook, alors ils se permettent de dire n'importe quelle crotte. Tu
comprends? Oh, le monde du Facebook, Seigneur.
Exact. Mais non, cette personne-là est un vrai complotiste. Je suis pas du genre à parler de n'importe qui, de n'importe comment. Mais cette personne-là m'a assez marqué qu'elle mérite d'être parlée.
Tu l'as vu, cette personne-là? Tu l'as vu où?
Et je vais pas le dire, OK? C'est juste une personne qui fréquente une personne relativement proche de moi.
Okay.
D'accord?
C'est bon.
Puis là, elle est convaincue que toutes les théories du complot se rassemblent en une grosse.
Okay.
Comme quoi les gouvernements ont un agenda du First World Order pour contrôler le monde. Mais ça n'a pas commencé comme ça, OK?
Attends, Jay. On a vu la même chose, je pense. Tu as vu ça sur Facebook? C'était une madame?
Non, j'ai rencontré cette personne-là dans la vraie vie.
OK, parce que ce que tu viens de dire, là... J'ai écouté une vidéo cette semaine d'une madame qui parlait de tout ça.
Pour vrai?
Et j'ai été crampé. Ben,
ça se peut que ce soit cette madame en question-là qui véhicule ce genre de message, mais la personne que je te parle, je l'ai rencontrée dans la vraie vie et elle m'a parlé tête à tête, genre à 2 mètres de distance ou plus, là,
parfait,
de tous ces complots-là. Puis ça commence avec l'incroyable 5G, la nouvelle technologie. Il dit « En Chine, la 5G est installée depuis longtemps, puis c'est une vraie dictature. Les antennes contrôlent les gens, puis il y a un système de caméras qui te permettent de voir, puis de pointage qui te permettent de contrôler toutes les personnes. » Est-ce que c'est vrai ou non? Je ne le sais pas, j'ai pas fait mes recherches, mais je sais que j'ai déjà regardé ce genre de vidéos-là aussi passer sur Facebook. Mais là, il me dit « Le COVID-19, c'est un complot. Puis je vais te dire pourquoi. C'est un complot pour dire, ça, c'est un test. Est-ce que les citoyens écoutent réellement ce qu'on dit? Puis si c'est le cas, ben on va commencer petit à petit à leur obliger des choses, puis on va devenir une dictature, nous aussi.
C'est exagéré.
Là, j'essayais de pas rire dans sa face.
Je comprends.
Je sais pas comment ce genre de personnes-là peuvent réagir si on rit d'eux.
Ils sont fâchés.
Ouais. Et il me dit, Jay, la 5G... Ça, c'est déjà en train de se produire à Montréal, mais les antennes émettent des ondes tellement puissantes que lorsqu'on va se faire vacciner pour la COVID-19, il va y avoir des métaux dans le vaccin qui vont permettre aux antennes du 5G de nous contrôler.
Je suis sans mots.
Mais écoute, Marco,
cette personne est à jeun.
Oui, à jeun, okay, devant moi, qui croyait ce qu'elle disait.
Dur comme fer, là.
Oh oui! Puis là, il me dit, le port du masque, c'est encore une affaire pour qu'on se soumette. J'en reviens pas.
Je peux pas.
Je suis pas capable de concevoir qu'une personne comme ça croit réellement tout ça.
Oh mon Dieu. Mais attends, là. Je vais continuer sur ce que tu disais. Ce que j'ai vu cette semaine, moi. C'est une madame. Mm-hmm. La madame met ces vidéos-là sur Facebook, donc accepte que ce soit partagé, OK? Et je veux que vous allez la voir.
Exact.
José Rivard. Tout le monde. Cette madame. En fait, une vidéo de 8 minutes 52, OK? D'elle dans sa voiture qui parle. Et elle commence en disant « Vous, là, les masqués! » Les masqués qu'elle nous appelle. « Les masqués, vous autres, vous êtes des gens stupides. Moi, je suis une complotiste et je suis fier d'être une complotiste parce que ça montre que je suis capable de penser par moi-même et je suis pas un petit mouton qui suit le gouvernement. » Elle commence ça comme ça.
Oh boy.
Après ça, elle dit que tout ce qui se passe autour de nous, c'est avec la franc-maçonnerie. Donc là, c'est les francs-maçons qui nous contrôlent. Mmh. Et là, attention, elle vient rajouter le satanisme à tout ça. Le satanisme, mmh. Jérémy.
Là, elle alors, dit c'est que... José Rivard?
Ah oui, oui. José Rivard, 8 minutes 52. Allez voir ça, ça vaut la peine. Mais dans le fond, elle a dit que elle ne va pas porter ça, le masque, parce que, écoute, c'est cave, ça sert à rien. Gars, il n'y a personne qui est mort de ça, le COVID, il faut bien que c'est cave. C'est ça qu'elle dit. Fait que, hein? Puis, en tout cas, ouais, elle est convaincue que tout ça, c'est un gros complot, qu'en ce moment, c'est tout le gouvernement mondial qui veut nous contrôler et que l'OMS, c'est pas une vraie organisation mondiale de la santé, ça, ils sont juste là pour nous contrôler, eux autres et tout. Et que, ben, c'est comme si, dans le fond, les francs-maçons auraient créé ça. Puis là, ben, ils veulent nous contrôler, puis nous, on est juste des petits moutons qui suivent, puis elle, c'est un gros tiger là, qui fait ce qu'elle veut.
Elle, c'est une rebelle. Elle va faire cracher l'étoile de la mort. Là.
Oui. Oui.
Mais je comprends pas. C'est pas que je juge ces personnes-là, mais je ne comprends pas comment est-ce que tu peux être aussi certain de tout ça, alors que premièrement, il n'y a pas de preuves, puis que, my God, il y a des conventions, il y a des règlements que ces gouvernements-là doivent suivre. Nous sommes une société. Mm-hmm. OK, c'est pas une démocratie totale. C'est sûr et certain parce que notre mode de scrutin fait en sorte qu'on élue un député
ou
un certain gouvernement. Alors, c'est sûr et certain que tu votes pour le gouvernement et non pour le député, alors tu n'as pas tes intérêts réellement à cœur sur le premier échelon. Mais c'est dur de diriger un gouvernement.
Ben c'est ça, là, je veux dire. Le goût, il fait son possible.
Exact. Tu ne peux pas passer n'importe quelle loi comme ça parce que tu as toujours plusieurs oppositions. Tu dois écrire la loi. La faire adopter, la faire voter, c'est pas facile. Anyway, on s'embarquera pas là-dedans, mais je voulais juste vous parler que j'ai rencontré un complotiste, puis un vrai, là.
Lui, il mettra pas son masque, là.
Oh non. Ben, il m'a dit qu'il allait le mettre, mais le moins possible. Parlant du masque, c'est rendu obligatoire le porter dans les lieux fermés. Personnellement, je suis pas contre ça.
Moi, non.
Mais... j'ai un problème avec le fait que peu de gens savent réellement comment se servir du masque ou de le porter correctement.
JJJ. Le nombre de personnes que je vois les avoir à l'envers, ils l'ont pas sur le nez, ils l'ont sur le menton. Ils le prennent par leurs mains, genre, ils prennent pas, ils le prennent par en avant, puis là, ils l'enlèvent. Genre, tu comprends-tu que l'objectif, c'est que tu les touches le moins possible, mon grand chum? Là?
Exact. Tu ne fais que te contaminer tes mains, tu contamines plusieurs... ben elles sont contaminées par plusieurs surfaces. Ensuite, tu touches ton masque, tu plies. En le pliant, c'est contaminé. Puis c'est ça que je me demande. Le masque sert-il réellement à quoi que ce soit si les gens ne savent pas comment l'utiliser?
Ben c'est ça. Tu sais, oui, il est utile, le masque, mais quand tu l'utilises sur le sens du monde. Mais là, il y en a plein qui font juste dire « Ah, j'ai un masque, je suis correct. » Non, non, là, ma Gaétane, là, commence par t'en servir sur le sens du monde. Puis après ça, ça va être utile. Mais là, en ce moment, c'est juste un statement que tu fais en disant « Je porte le masque comme tout le monde. » Mais utilise-le sur le sens du monde.
C'est que c'est un faux sentiment de sécurité que ça apporte porter le masque. Alors, les gens vont avoir plus ou moins tendance à respecter le 2 mètres.
Ben là, le 2 mètres, je le sens, moi, qui est de plus en plus en train de quitter, pour de vrai. Je suis juste allé au Costco, OK, vendredi. Et ben là, l'anarchie, là. À l'entrée, il y a une madame, OK, avec son Purel, puis elle est... Lucky Luke, les pish, 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 pish. Elle pogne tout le monde avec les
mains. Plus vite que son ombre.
Ben oui. Puis le pire, c'est qu'elle a dit « Arrêtez de faire la file, rentrez. » Mais là, c'est parce qu'on fait la file tout le monde, partout, genre, parce qu'il faut garder un 2 mètres. Elle est genre « Ah oui, venez-vous-en. Ah oui, parce que c'est gros, hein, l'entrée du Costco. C'est une porte de garage, ma grande chum. » Elle était juste, ah ouais, puis là, elle passait le purel à tout le monde. Mais dans le Costco, c'est le dawa, là. Tout le monde est côte à côte. Il y en a qui n'ont pas de masque, il y en a qui ont un masque. Il y en a, ben, tu sais, il n'y a pas de flèche non plus. Fait que le monde se prenait n'importe où, n'importe comment. Fait que j'étais genre un peu là. C'est intense, là. Mais c'est pour ça, on dirait que le monde, là, plus ça avance, plus ils sont tannés. Puis là, vu qu'ils sont écœurés, ils sont genre, oh, on s'en fout. Mais là, si tu veux t'en sortir, oui, on est tous tannés. Nous, on est tous dans le même bateau depuis 4 mois, là. On est tous tannés, mais justement, si tu veux, genre, arrêter de suivre toutes ces règles de marde, là, ben, commence par les suivre là. Puis dans une couple de mois, peut-être, mais il n'y en aura plus.
Exactement. Je suis allé voir sur le site du gouvernement du Québec. Mm-hmm. Puis j'ai pris la petite partie qui donne l'information sur la façon dont le coronavirus se transmet. Le COVID-19 se transmet d'une personne à une autre par le contact avec les gouttelettes qui sont projetées dans l'air quand une personne malade parle, tousse ou éternue. Elle peut aussi le propager par des mains infectées, portées à la bouche, au nez ou aux yeux après avoir eu un contact avec une personne ou une surface infectée. La transmission par des surfaces ou des objets contaminés est possible, mais ne représente pas le mode de transmission principal. Il est aussi possible que le virus soit transmis par les selles d'une personne infectée.
Moi, je joue pas avec le caca, c'est correct.
Exact. Ben, les personnes en CHSLD sont obligées, malheureusement, mais elles portent des gants, tout ça, puis elles ont une formation. Alors, moi, c'est plus l'éternuement.
Ouais.
Lorsque tu tousses, tu portes ton masque. Mais si tu ne sais pas comment le porter, tu vas l'enlever, tu vas t'infecter tes mains.
Ça va être tout ça d'autres choses après.
Exact. Tu vas mettre ça sur plusieurs surfaces. C'est à ce moment-là le gros problème, que le masque ne sert pas à grand-chose. J'ai vu plein de photos, de vidéos explicatives sur Facebook qui ne sont pas très véridiques, on s'entend, mais des blagues du genre « Toi, tu portes tes pantalons comme ça ». Pourquoi tu les portes comme ça? Ben, ça sert à ça, un masque. Ça sert à pas, mettons... il faisait un parallèle avec le sexe masculin puis le nez.
Mm-hmm.
Fine. Mais tes pantalons, tu vas pas les virer à l'envers puis mettre ça dans la face du monde.
Ouais, non. Exact.
Mais le masque, veut pas, c'est ça que ça fait. Mm-hmm. Quand tu sais pas t'en servir, ça sert à rien. Mm-hmm. Alors, ce que je vous suggère, informez-vous comment bien porter le masque et à ce moment-là, ça va être très efficace.
Exactement.
Faites le minimum des efforts. Bon, là, on a parlé d'un complotiste, on a parlé du masque, on va retourner au complot. C'est l'heure du complot de Marco.
Oh oui. Et là, absolument, moi, j'ai une petite histoire pour vous, mais là, aujourd'hui, on y va dans les témoignages.
Ouh.
C'est bon, hein? Mm-hmm. Parce que je voulais parler de la vie après la mort. Ça sonne deep comme ça. Mais je me suis toujours demandé, moi, qu'est-ce qui se passe après. On dirait que je ne veux pas croire qu'il se passe rien et tout. Donc là, j'ai trouvé une vidéo de personnes qui donnent leur témoignage par rapport à leurs expériences de mort imminente. La mort imminente, ça, c'est des gens qui sont morts pendant comme quelques minutes et qui sont revenus. Donc, ils ont comme expérimenté un peu c'était quoi la mort. Donc, ils ont comme pu voir qu'est-ce qui se passait de l'autre côté.
Je t'arrête. Est-ce que tu aimerais ça, vivre ce genre d'expérience-là?
Et je ne sais pas. On dirait que j'aurais peur de ne pas revenir.
Non, mais tu t'es sûr et certain que tu reviens.
Ah, ben, on dirait que oui. Peut-être que ça me rassurerait.
Ouais?
Ouais.
Ben, parce que
moi, j'ai pas peur de grand chose dans la vie, mais la mort, j'ai toujours eu peur de ça. Parce que je sais pas quand ça va arriver, tu sais pas comment, puis tout. Fait que là, de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord, peut-être que ça pourrait rassurer un peu.
OK.
Donc là, première chose, la plupart des témoignages racontaient la même expérience, OK, par rapport à la mort imminente. Donc, les gens entendaient des bourdonnements, puis comme sentaient une genre de vibration. Alors ça, ils voyaient un tunnel avec une lumière blanche. Classique, ce qu'on connaît. Et ils se sentaient attirés vers cette lumière-là, mais comme c'était dans un état de paix, de sérénité, limite, c'était positif, genre, comme sentiment. Comprends-tu? Alors ça, il y en a d'autres qui se voient flotter au-dessus de leur corps, puis comme qui voient un être cher venir les chercher. Ça, c'est spécial.
Ça, je trouve ça poussé.
Ouais, un peu. Et la plupart du temps, quand tu es dans une expérience de mort imminente, tu peux décider soit de rester là, donc de mourir, ou de revenir. C'est comme ta décision personnelle à toi.
Hein?
Ouais. C'est bizarre.
Ah. Hein? Ils ont juste trop regardé de films. Ça, c'est sûr. Ah.
Et là, allons-y avec des histoires, des témoignages. Nous avons l'histoire de Tina, de l'Arizona, d'accord? Donc, elle faisait une randonnée avec son mari en Arizona, tranquille. Et à un moment donné, elle s'est juste effondrée par terre, puis son visage est devenu mauve, OK? Mais genre, mauve. Puis là, entre le sentier et l'hôpital, Tina a été réanimée 8 fois. Donc, en tout, elle est morte pendant 27 minutes. C'est intense.
Huit fois.
Puis là, à l'hôpital, elle était intubée. Puis là, elle a demandé à son mari de donner un papier puis du crayon parce qu'elle ne pouvait pas parler. OK? Et sur le papier, elle a écrit « It's real ». Donc, it's real. Elle a dit, c'est vrai. Comme en voulant dire, tout ce qu'on entend, genre sur la vie après la mort, ben c'est vrai. Genre, je suis allé là, je l'ai vu. C'est vrai, puis elle a senti le besoin de l'écrire. Même quand elle l'a fait tatouer sur le bras maintenant.
Mais est-ce que Tina peut parler maintenant?
Oui, maintenant elle peut parler, tout va bien. Mais à ce moment-là, vu qu'elle venait juste comme de ressortir de là, puis elle venait de se réveiller, elle était genre, ben là, mon Dieu, il faut que genre, je m'en souvienne de ce que j'ai vu, puis tout, puis que j'en parle. Puis elle a vu. Elle a vu un être qu'elle a dit qu'elle a appelé Jésus parce que c'était une personne catholique. Et puis lui, il était entouré d'une clôture noire, puis il y avait comme une grosse lumière jaune derrière lui. C'est ce qu'elle a vu. Et là, est-ce que tu es prêt pour la deuxième histoire?
J'imagine que oui, je suis quand même assez perplexe. Tu peux voir mon visage,
ouais.
Mes sourcils haussés, mes yeux sont comme
Mais attends là. Donc là, nous avons l'histoire de John, qui avait 10 ans, OK? Donc, à 10 ans, John.
Excuse-moi. Dans ma tête, les John ont jamais eu 10 ans. Ils ont genre 30 ans et plus.
Avoue, mais non, ils ont déjà été jeunes, John. Donc, John était à Virginia Beach, puis il jouait dans les vagues, OK? Puis il y a une grosse vague qui est arrivée sur lui, puis il s'est noyé. Mais là, quand il s'est réveillé, bien sûr, je parle de mort imminente, donc il est revenu. Quand il est revenu, il a dit qu'il se sentait genre flotter dans un endroit sombre, OK? Mais genre, c'était comme le néant. Même limite, il voyait sa main devant lui, puis il la voyait pas, là, tu sais. Très, très noir.
OK.
Puis, il ressentait beaucoup de terreur, d'anxiété, de solitude. Fait que lui, c'était pas... Tu sais, tantôt, je disais, mort imminente, sentiment positif. Ben, pas lui.
OK, John a pas trippé.
Non. Puis lui, il entendait des voix. Mais genre, une voix, mais elle venait de partout un peu. Comme si c'était plein d'échos, genre, qui résonnaient autour de lui. Puis ça, c'était la voix d'un petit garçon qui avait à peu près son âge, OK? Et le petit gars lui a dit qu'il s'appelait Christopher. Puis il a dit que tout allait bien, que c'était pas encore son temps. Donc, il allait revenir. Puis, il a dit, tu diras à ta mère que je la pardonne puis que je l'aime. Puis, tout de suite après, John y a repris conscience. Puis, il était à l'hôpital. Et là, quand il s'est réveillé, il a raconté la rencontre qu'il a faite avec sa mère. Puis, sa mère a juste lâché un cri de surprise puis elle s'est mise à pleurer puis elle l'a quitté. Puis, elle n'a jamais voulu raconter pourquoi. Jusqu'à ses 33 ans.
John
est devenu père, a eu un enfant et a appelé son enfant Christopher parce que lui, il est encore marqué par cette rencontre-là. Puis ça l'avait comme vraiment marqué, c'était comme un peu son sauveur, si tu veux, Christopher. Et là, sa mère lui a expliqué que 2 ans avant la naissance de John, elle est tombée enceinte à 16 ans et elle a dû se faire avorter. Mais avant de se faire avorter, elle était quand même pas mal avancée dans sa grossesse, mais elle savait pas si ça allait être un gars ou une fille, mais elle savait qu'elle voulait appeler son enfant Christopher.
Donc, ça, c'est bizarre.
Donc, John, quand il est comme mort, il disait un peu le purgatoire, là, où ce que tu vas avoir ton jugement dernier. Il était là, puis il a rencontré Christopher, vu qu'il n'est jamais né, mais il était mort, puis comme il flottait là, puis il chillait là.
Alors, Marco, est-ce qu'on vient de répondre à un débat existentiel? L'avortement, est-ce que c'est un meurtre ou non? Selon Christopher, probablement.
Oui. Mais c'est ça. Donc, John a comme rencontré son frère.
Ah, OK. Ça, c'est space.
À vous, là.
Oui.
Bon. Donc là, on peut croire que après la mort, il y a soit du néant, soit d'autres choses. Mais il y a une autre théorie par rapport à ça. Tu sais, il y a la fameuse lumière qui revient souvent. Il y en a qui croient... Ouais, le tunnel, la lumière et tout. Mais il y en a plusieurs qui croient que la lumière blanche, ben, c'est pas le paradis. Ça serait plutôt les lumières de l'hôpital. Et que tu renaîtrais dans un autre corps. Mais là, encore là, il faut croire à la renaissance, mais il y a plusieurs personnes qui pensent que ça serait ça. Qu'au lieu de vivre juste une vie, puis après ça, ben, tu meurs, t'es dans le néant, fuck off, ben, tu reviens. Et la lumière, ben, c'est la lumière de l'hôpital.
Puis, y a-t-il quelqu'un qui peut justifier cette théorie-là, qui a subi une expérience de mort imminente? Non?
Non, parce que ben, quand tu renais, ben, c'est parce que t'es mort.
Mm-hmm. OK, parfait. Alors, cette théorie-là vient comme tasser les expériences de mort imminente.
Ben ça, c'est comme si c'était comme le avant. Parce que, tu sais, dans le fond, le monde, quand ils voyaient la lumière, ben, tu sais, ils ont le choix de se rendre jusqu'à la lumière ou de revenir, mais ils sont revenus.
OK. Ah, c'est comme une transition où est-ce que t'arrêtes puis tu recommences, mais jeune.
Exactement, tu renais en bébé. Puis j'aime mieux croire ça parce qu'on dirait que mourir puis être dans flotter dans le noir toute ma vie, je trouverais ça plate.
Personnellement, j'ai une autre vision sur la mort, si tu me permets. C'est assez profond, je vous avertis, mais c'est réellement ce que je pense. Lorsqu'on meurt, il n'y a rien. Okay. Mais t'es pas conscient qu'il n'y a rien.
C'est quand tu dormais, genre?
C'est comme si tout cessait d'exister.
OK.
Puis selon moi, c'est la plus belle chose qui n'existe pas.
Ah ouais?
Je vais te dire pourquoi. Avec cette pensée-là, tu profites à 110% de ta vie. Tu profites de chacun des moments, du moment présent, des rencontres que tu fais, de ce que tu as la chance d'accomplir, puis la personne que tu peux devenir. Parce c'est que ça. Tu sais ou tu crois, du moins, qu'à la fin, il n'y a rien. Alors, tu ne fais qu'apprécier. Puis, le jour où est-ce que je vais être rendu à mourir, si j'ai la chance de m'en attendre, je vais pas être triste. Parce que c'est quelque chose que j'accepte. C'est pas mauvais en soi qu'il n'y ait rien. Parce que dans la vie, la plupart des gens veulent toujours avoir quelque chose.
Ou avoir plus et tout.
Exact. Mais c'est pas mauvais. Je crois sincèrement que c'est bien qu'il y ait une fin à ça. Ouais. Parce que ça peut donner une raison d'apprécier ce qu'on a.
C'est sûr.
Puis aussi, finalement, on peut bien dormir.
Ah ouais, une bonne grosse nuit de sommeil.
Exact, exact. Tout le monde se plaint. Ah, oh, je suis brûlé le matin. Ah, oh, fatigué, mon homme, plus capable. Et savez-vous quoi? Selon ma croyance, tu vas être bien correct. Exact. Je vais
juste faire ça. Ouais,
puis
c'est, ça.
C'est comme ça que je vois les choses. Puis c'est peut-être pour me consoler ou une façon d'apprécier la vie, mais c'est pas quelque chose qui me rend triste ou dépressif nécessairement.
C'est bon.
Puis, ça me permet aussi de penser que tout le monde est unique.
Ouais, mais quand on renaît dans quelqu'un d'autre. Pas en nous.
Ouais. Alors, ce nouveau départ-là dont tu parles, t'oublies tout, puis tu deviens une autre personne.
Genre.
Mais l'âme reste pareille.
Ben, c'est ça, je sais pas, mettons. Est-ce que t'as comme des flashbacks de ton ancienne vie? C'est bizarre.
Mais ça, il faut croire au principe de l'âme et de la renaissance.
Ouais, ben c'est ça. Encore là, c'est une question un peu de religion, là, si on veut, de croyance et tout. Là. Mais, tu sais, moi, en tant que personne athée, qui ne croit pas en Jésus et toute la gang, j'aime quand même plus croire qu'il y a quelque chose après.
Mais si c'est ça que tu crois, moi, j'ai aucun problème à ça.
Merci.
Ça me fait plaisir. Tu sais, il faut respecter ce que les autres pensent sans vraiment piétiner sur leurs croyances ou pensées, ça sert à quoi?
C'est vrai, ça.
Mais je trouve ça plaisant qu'on puisse en discuter quand même.
Oui.
Tu viens de parler de l'expérience après la mort.
Oui.
Et qu'on revient dans la vie. Eh bien, moi, je vais simplement parler de la mort.
Oh.
Mais, ce qui se passe lorsqu'une personne meurt, souvent, il va y avoir des funérailles.
Oui.
Puis les gens vont aller à ces funérailles-là et vont devoir s'habiller d'une certaine façon.
Oui.
Souvent, ça va être des vêtements sombres.
Ouais. Mais sinon, la question que je rose, ça fait ça.
Puis c'est surtout mal vu.
Oui.
Mais pourquoi est-ce que c'est mal vu, Marco, de s'habiller de façon colorée à des funérailles? Là est ma question.
Est-ce que je peux donner mon hypothèse?
Oui.
Peut-être parce que la mort, c'est triste. C'est pas quelque chose de joyeux. Et là, si t'arrives à des couleurs flamboyantes pour aller faire le party au Dagobert, ça se peut que tu te fasses regarder croche.
OK. La mort n'est pas quelque chose de triste. Ce qui est triste, c'est le trou énorme que la personne qui est morte va laisser dans notre vie. C'est ce qu'on appelle le deuil. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des vêtements colorés. Pour la simple et bonne raison que premièrement, je suis le genre de personne à faire des blagues aux funérailles. Puis, c'est pas parce que je veux manquer de respect. OK?
Là, Marco, pas surpris, on dirait.
Marco, je vois ta face. T'as fait, oh, là, il y a une chance que je venais d'avaler ma gorgée d'eau. Mais ce que je veux dire, pourquoi rester dans une ambiance triste? Je suis conscient que c'est triste. C'est pas quelque chose de plaisant, loin de là.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un petit peu de soleil dans cette journée grise-là?
C'est sûr.
Rien ne nous empêche d'être flamboyant ou de mettre un petit peu de couleur, un petit peu de blague. Puisque chaque personne vit son deuil d'une façon différente, je peux comprendre. Alors pourquoi uniformiser cette touche grisâtre-là? Si ça peut permettre à certaines personnes de mieux aller.
De se sentir moins triste et seul.
Oui. Je ne sais pas si tu connais le site WikiHow.
Ça me dit quoi, mais c'est bien rare que je vois là-dessus.
Bon. Eh bien, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi, dont toi, Marco, c'est un wiki qui te permet, en quelques images, d'apprendre une multitude de choses. Alors, okay. Si tu te demandes comment faire de la pâte à tarte, tu vas sur WikiHow et tu écris « pâte à tarte ».
Puis ils vont te sortir toutes les recettes, tout ce que tu veux.
Même pas. Tu vas avoir quelques illustrations de comment faire une pâte à tarte.
Pas besoin de lire.
Non. Eh bien, je suis allé sur WikiHow. Pourquoi ne pas porter de couleurs vives lors des funérailles? C'est ce que ça me sort. Éviter les couleurs vives à tout prix, en gras. Ne porter jamais de couleurs vives à un enterrement. Les couleurs primaires comme le bleu, le rouge et le jaune pourraient être interprétées comme un manque de respect et froisser la famille du défunt.
Okay.
Dans certaines cultures, le rouge est un signe de fête. Il est donc particulièrement important d'éviter cette couleur. Votre tenue devrait entièrement être dépourvue de couleurs vives. Vive, une robe noire ornée d'un ourlet rose vif ou un tailleur noir sur une chemise rouge ne sont, par exemple, pas des tenues appropriées pour des funérailles. Cependant, il existe de rares exceptions à cette règle. Dans certains cas, la famille du défunt pourrait demander aux invités de porter des couleurs vives ou une couleur en particulier pour rendre hommage au défunt. Dans ce cas, respectez le souhait de la famille. Eh bien, je vous dis mon souhait. Là. Vas-y. Habillez-vous comme vous le désirez. OK. Mais sincèrement.
Comme on l'a dit, c'est un peu une question de croyance.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est comme des vieilles traditions où que dans le temps, ben, le monde faisait ça, donc là, la génération d'après a fait ça, et ainsi de suite. C'est juste pour ça que tout le monde est sombre, dans le fond.
Mm-hmm. Je suis allé voir la signification de la couleur lors de funérailles dans plusieurs cultures.
Okay.
Comme par exemple, nous, les Occidentaux, on a coutume d'utiliser du noir et les couleurs sombres en général. On a 3 points pour ça. Cela est dû au fait qu'on considère que le défunt revient à l'état de cendre, chose que je ne savais pas.
Non.
Le noir rappelle aussi l'obscurité dans laquelle est plongé le défunt. Alors là, peut-être que le John a dit vrai. Le violet tient lieu de transition dans le deuil. Il est souvent employé entre le grand deuil et la fin du deuil.
Le grand deuil et la fin du deuil.
Hein, j'imagine que c'est comme...
Vers la fin, là, quand tu...
Le climax de ton deuil jusqu'à l'acceptation.
OK.
Ensuite, ces codes ne sont pas universels. En effet, les couleurs du deuil peuvent différer du tout au tout selon l'endroit du monde où l'on se trouve. En Asie, l'Inde et le Vietnam privilégient le blanc pour la pureté. Au Japon, les personnes en deuil portent du noir et du blanc. Pourquoi? Eh bien, les Japonais considèrent que le défunt se transforme en corps de lumière. C'est une belle façon de voir les choses. La Chine, elle, se revêt de blanc, qui symbolise la mort, et de rouge pour rappeler le sang et la douleur.
Hein?
Mm-hmm.
La douleur.
Rien de moins, là. Les autres vont clairement pas faire de blagues aux funérailles.
Ah non, non.
En Iran, la couleur du deuil est le bleu. Pourquoi? Couleur de la paix.
Ah, comme quoi, paix d'esprit.
Exact. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Les Philippines et les Égyptiens sont revêtus de jaune pour représenter l'or du soleil pendant le deuil.
Là.
J'imagine que ça va avec leurs croyances. Mm-hmm. Et vous, ceux qui nous écoutez présentement, toi là, t'en penses quoi? Est-ce que t'es une personne qui trouve que c'est un manque de respect, s'habiller de couleurs vives, que c'est quelque chose dont tu es indifférent, ou c'est quelque chose que t'aimerais essayer, sachant que ça ne froissera pas la famille du défunt? Si tu veux, tu peux nous écrire sur notre page Facebook « Les Corsés » ou en commentaire du podcast. Ça va nous faire un grand plaisir de répondre puisque nous, on a donné notre point de vue sur ça. Alors, je trouve ça très intéressant que ça change de culture en culture puis qu'il y ait une signification différente.
Mm-hmm.
Comme quoi, ce qui est important pour nous, c'est vraiment la signification qu'on lui donne puis que ça peut être n'importe quoi, à condition qu'on y croit.
Mais c'est ça. Peut-être juste avec la génération, nous, peut-être que ça va changer aussi. Mm-hmm. Peut-être que plus on va vieillir, puis moins on va voir de noir. Qui sait?
Exact, mais il y a énormément de choses qui changent présentement. Alors, Ça se peut que ça soit l'une des controverses le mois prochain.
Effectivement.
T'sais, quand je parle de controverses, je parle pas des gros mouvements sociaux qui font rage présentement, mais je parle des choses futiles dont pourrait se passer dans cette crise. Alors?
Il y en a.
Ah ouais. Malgré tout, Marco, c'est l'heure des questions existentielles dont on a la prétention de connaître la réponse.
Ben, en tout cas, on va essayer. Parce que je sais pas toi, mais moi, en tant qu'enfant, mettons, on retourne à Marco de 5 ans, je posais des questions sur tout. Mais tout. Ouais, ouais. Genre, pourquoi ça, c'est ça, tu sais? Je me rendais loin, OK? Et ma mère, c'était là pour te le dire. Limite, c'était gossant. Mais, à ce moment-là, c'est signe d'intelligence.
Ah!
Je me dis, je suis peut-être quelqu'un de brillant.
Mais ta mère s'est consolée ainsi.
C'est ça. Donc là, j'ai sorti 5 questions, OK? Puis on va essayer de trouver des réponses à ça.
Hey, parfait.
Donc, la première, comme une classique, là. Est-ce que le mot synonyme a un synonyme?
Hey, je l'avais déjà posé, cette question-là.
Oui, mais je la ramène parce qu'on n'avait pas trop trouvé.
C'est vrai. Le synonyme de synonyme.
Je me dis, s'il y a un mot à tout, synonyme doit avoir un mot.
Quelque chose qui peut s'apparenter une définition, mais c'est pas la même chose.
Ouais, non.
C'est quoi le synonyme de synonyme?
C'est synonyme, c'est-tu pareil? Est-ce que pareil peut être un synonyme à synonyme?
Non, quelque chose de similaire.
Oh, similaire.
Boom.
Similaire, c'est beau.
Ouais.
On va dire ce que ça va être ça.
Première question, check l'ami!
Après, est-ce que le jus d'orange a été nommé d'après sa couleur ou d'après son fruit? Et de là, la question, qu'est-ce qui est arrivé en premier, la couleur ou le fruit?
Ah, bordel.
À vous, là.
Tu viens de me briser pendant 5 secondes.
Parce que ça, à la base, moi, je t'aurais dit, tu sais, c'est du jus d'orange comme du jus de raisin ou peu importe. Donc, ça doit avoir été nommé à partir du fruit, l'orange. Mais à la base, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Est-ce que c'est la couleur qui a été là en premier? Ou c'est le fruit, l'orange, qui était là en premier? Ça doit être la couleur.
Ça, on pourrait probablement connaître la réponse. On a juste à aller voir d'où l'orange, le fruit, provient. Ensuite, on va voir dans cette langue-là l'étymologie de la couleur orange, selon eux. Puis on pourrait définir si c'est le fruit qui est arrivé avant ou la couleur.
Ça s'en vient compliqué.
Mais savez-vous quoi? Je vais faire la recherche. Je vais faire une petite parenthèse lors du montage.
Okay? Parfait.
Et bo-boy, ici Jay du futur. Et savez-vous quoi? J'ai fait mon devoir. Si jamais un de mes anciens professeurs écoute le podcast, il va probablement être abasourdi. OK, j'ai la réponse pour vous. Alors, l'appellation de la couleur orange est arrivée après le fruit en 1553. On a d'ailleurs commencé par l'appeler la couleur d'orange. Simple comme bonjour, et c'est ainsi que la question existentielle de Marco a été répondue. Retour au podcast!
Ensuite, probablement l'une des plus connues.
Attends, est-ce que je peux t'interrompre?
Oui.
Est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui...
C'est ce que j'allais te demander. Jérémy, est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui t'arrive en premier?
Bordel.
Moi, quand j'ai écrit la question, je me suis développé une théorie dans ma tête.
Hein, go, dis-la.
J'aurais envie de te dire que c'était une espèce, mais une espèce, mettons un genre de dinosaure, OK, qui avec l'évolution s'est transformé en poule et s'est mis à pondre des œufs. Mais à la base, ça pondait pas d'œufs. Mais là, tout, avec l'évolution, il y a de quoi qu'une coquille commence à sortir de là.
Ça aurait bien du bon sens, parce que c'est pas vrai qu'un jour un œuf est apparu avec un organisme vivant pour se développer.
Ben non, là.
Puis je vais te dire pourquoi. Parce que les œufs doivent devenir, ben, doivent se faire incuber par le mâle.
Ouais, mais c'est ça.
Tu sais, les œufs sont fertiles, mais il n'y a rien présentement pour pousser dedans.
Il peut pas juste avoir un œuf, là.
Non, poup, exact.
Ça pourrait pas fonctionner.
Ben, je pense que ta théorie est la bonne.
Yes. Merci. Donc, on est à la quatrième.
On les a tous checkés.
À peu près. Comment un médicament contre la douleur sait exactement où t'as mal?
Ah, je pense que je peux répondre à celle-là et je ne suis pas un pharmacien. Ça m'impressionnerait, mais si jamais il y a un pharmacien qui nous écoute.
On sait jamais.
Exact. Ou quelqu'un qui a la réponse, dites-nous-la. Oui. Mais je pense que le médicament en question, c'est un anti-inflammatoire et il va aller repérer l'inflammation dans le corps.
Mais encore là, comment il fait pour le trouver? Je veux dire, c'est pas un être humain doté d'une intelligence?
Non, mais lorsqu'on prend le médicament, celui-là va se répandre partout dans le corps. Puis, il va réagir à l'inflammation. Alors, il ne réagira pas dans notre corps jusqu'à temps qu'il trouve l'inflammation même. Puis, ça va être la seule zone où est-ce qu'il va agir.
C'est bon.
Ouais?
C'est quand même intelligent, je pense.
Est-ce qu'on aurait une autre question existentielle de checker? Je pense que oui.
Et la dernière, qui me fait bien rire, mais tout de même. À quoi pensait la première personne qui a décidé qu'elle allait traire une vache? Elle s'est dit quoi, là?
Oh non!
Tu sais, lui, il a checké ça, OK? Mettons, on redescend. Donc là, un Gaétan, il est arrivé, là. Puis lui, il a vu sa vache dans le champ. Puis il a dit, « Hein, il y a de quoi qui pente de ça? Mettons, je tire dessus, qu'est-ce que ça fait? »
Soit ça ou Gaétan, comme tu l'appelles si bien, a vu un veau se faire allaiter par le pied de la vache. Puis il s'est dit, si le veau goûte à ça, je pourrais goûter à ça. Là, la question est-ce qu'il a mis sa bouche sur le pied ou est-ce qu'il l'a trait?
J'espère que vous faites pareil que le veau, là.
T'imagines, Gaétan, man?
Il a dû faire un saut, là.
Oh my God, ça
mais
se peut
avoue,
pas.
Là. Mais sûrement qu'il a suivi l'exemple de quelqu'un. Fait que l'exemple du veau, là, j'ai envie de dire que c'est brillant. Parce que si, là, je suis regardé et il a dit, mais allez jouer après ça, moi, c'est bizarre.
C'est moi qui commence à chatouiller le pied de la vache.
Oh non.
Ça serait n'importe quoi. Oh non.
Donc, allons-y pour la théorie du veau.
Ah oui, s'il vous plaît. Je vais mieux dormir ce soir. Oui, ça, c'est sûr aussi. Et certain. Puis là, t'en as pas une petite dernière de cacher? Une question que tu t'es toujours posée puis que t'aimerais qu'on essaie de mettre au clair.
Ben, ma plus grosse question, celle que je posais toujours quand j'étais jeune, c'est pourquoi telle chose s'appelle comme ça? Mettons, pourquoi toi, tu es un garçon? Qui a décidé ça?
Oui. Comment? Vous? Pourquoi est-ce que patate s'appelle patate?
Genre, c'est-tu monsieur Larousse illustré qui a décidé ça? C'est-tu lui?
Moi, je pense que ben, la langue française descend du latin.
Ouais.
Alors, c'est vraiment une forme évoluée du latin qui a changé avec le temps. Puis, en français de France. Ouais.
Il a fallu que quelqu'un, un jour, commence à nous regarder toutes et à faire « OK, là, je peux pas juste te regarder pour faire un bruit. Là. Il va falloir que tu sois un mot. » Puis je vais te dire que toi, t'es ça, ça va être ça pour le restant de nos jours.
Eh bien, ça, c'est le langage qui s'est développé puis créé avec le temps. Je ne sais pas si tu te souviens, mais cette année, j'ai inventé un mot.
Ah, oh, mon Dieu, Seigneur. Je pense pas qu'il va devenir populaire, ce mot-là, Jérémy, par contre.
Imagine s'il le devient. Alors, ce que je veux dire, c'est tout le monde peut décider d'inventer des mots, mais je pense que lorsque la langue évoluait puis que la langue se faisait créer, ça se crée une langue.
Oui.
Ben, il y a des mots qui ont resté, puis d'autres qui sont partis. Tout comme le mot que j'ai inventé, pour ceux qui sont curieux, zing bang.
Et ça, Jérémy, quand utilises-tu zing bang?
C'est ça qui est cool. C'est un mot très flexible. D'accord. C'est un mot qui peut aller partout. Tout d'abord, je vais l'appeler, puis par la suite, je vais vous dire où est-ce qu'on peut le placer. Zing bang. Z-I-N-G-B-O-N-G.
Sauce Scrabble, là, ça vaut cher.
Ah oh ouais, c'est pas juste ça. C'est vraiment cool à dire. Pour les personnes qui me jugent présentement, dites au moins zing bang 5 fois. Vous allez le dire une 6e parce que vous trouvez que bang, c'est cool à dire, puis zing avant. Ah oh oui, vraiment. Alors, zing bang, on peut l'employer dans cette phrase-là. Comment tu te sens aujourd'hui? Zing bang.
Je pense que de tous les exemples que tu aurais pu utiliser Zing Bang, c'était le pire.
Il faut savoir. Là, Marco rit vraiment de moi. Mais fut un temps où est-ce qu'il disait Zing Bang?
Oui, quand on était à l'école, j'arrêtais pas de le dire. Tu m'avais vraiment influencé. Là.
C'est ça le pire. Je pense qu'on était rendu 6 personnes disait Zimbang de façon régulière. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui rentre dans ta tête. Puis là, je vous rassure, je ne dis plus Zimbang. C'est une bulle qui a passé.
Mais ça comble bien les silences, je dirais.
Ben oui, comme Zimbang, Zimbang. À chaque fois où est-ce que je testais le son des micros, j'ouvrais la slide, puis c'est genre Zimbang, Zimbang, Zimbang.
C'était rendu le test officiel.
Ben oui, parce que pour moi, je vois juste quelqu'un rebondir puis qui dit Zingbang. Bref, j'ai l'air énormément bizarre.
Mais non.
C'est un fou rire à chaque fois que dis le mot Zingbang. Alors, c'est ça.
Je sais qu'on conclut ça sur Zingbang.
Ben oui, parce qu'il n'y a pas plus Zingbang que ça. Oh! All right, hey, je vous souhaite un excellent lundi, puis une très bonne fin de semaine à tous. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Parlez-nous à votre tortue, vos amis, votre sœur ou même votre chat, si vous avez tout ça. Et puis, je vous dis à la prochaine, lundi prochain, c'est ça, Marco?
Ok, oui, mon chat.
Ah ouais, notre plage horaire, elle ne change pas.
Non.
Ça, c'est hot. All right, peace out, Girl Scout.
Bye!